Bonjour à tous, que vous soyez de passage, que vous soyez des habitués de cette église, soyez les bienvenus pour notre culte ce matin. Il nous est bon d'être rassemblés, de célébrer le Seigneur, de le prier, de le louer tous ensemble. Le thème de cette matinée s'intitule Comprendre et vivre la crainte de Dieu. C'est un sujet qui est rarement abordé. Il existe très peu de littérature le concernant, et la notion même de crainte de Dieu peut être tout à fait archaïque, dépassée. Pourtant, la dimension de la crainte de Dieu est une composante de notre foi chrétienne, notre foi biblique. Alors, on va essayer de définir ce que c'est que la crainte de Dieu, comment elle s'applique aussi dans notre vie. On va relever quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont eu et qui ont vécu dans la crainte de Dieu. On va voir aussi comment on peut la développer dans notre vie. Et puis, quelques bénédictions, des bienfaits, des bénéfices qui s'attachent à la crainte de Dieu. On commence par un passage qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1er. En se souvenant que lorsque Paul parle aux Corinthiens, Corinthiens qu'il visite de temps en temps, auxquels il écrit des courriers, on se souvient que ces Corinthiens avaient du mal à se détacher de leur ancienne vie. Corinthe était une ville où régnait beaucoup de désordre, beaucoup de dérèglement, et ces chrétiens qui marchent et qui commencent un parcours de vie chrétienne avaient toutes les peines du monde pour réaliser où Dieu voulait les emmener. Et en réalité, ils sont en marche, mais Paul les encourage en disant « Poursuivez votre marche dans la sainteté ». Et on lit ce passage dans le premier verset de 2 Corinthiens 7. « Puisque nous avons de telles promesses, dit-il, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. » Il faut rappeler peut-être ce matin que Dieu a de multiples facettes. Nous connaissons le Dieu d'amour, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui accueille, le Dieu qui nous reçoit en Jésus-Christ, le Dieu de bonté, le Dieu plein de patience à notre égard. Et où serions-nous si Dieu n'était pas patient avec chacun d'entre nous? Nous ne serions sans doute pas là aujourd'hui. Nous le connaissons comme le Dieu qui pardonne nos fautes, comme le Dieu de grâce. Et heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. Nous le connaissons comme le Dieu fidèle, même si nous sommes infidèles. Et Dieu a beaucoup d'autres facettes. Par exemple, il a un certain nombre de noms. Un seul nom ne suffit pas pour décrire qui Dieu est réellement. Alors, la Bible utilise un certain nombre de noms. Par exemple, Elohim, qui est un pluriel de majesté et qui signifie fort, puissant. Il y a le nom de Yahvé, qui est utilisé plus de 6500 fois et que l'on a traduit par l'Éternel. El Shaddai, Dieu tout-puissant. El Elyon, le Dieu très haut. En réalité, c'est le plus haut et il n'y a personne ni rien au-dessus de lui. Ou bien El Olam, Dieu d'éternité, ce Dieu qui n'a pas de commencement de jour ni de fin de vie. Et il y a bien d'autres noms qui sont attribués au Seigneur. Dans le Premier Testament, la première partie de la Bible, il nous est présenté comme un Dieu redoutable. Le livre de la Genèse le présente en relation avec Jacob et lui donne ce nom, Terreur de Jacob. Ça peut surprendre. Le Dieu fort, l'Éternel des armées, le Dieu jaloux, le Dieu juste qui exerce des jugements. Deutéronome chapitre 4 nous le présente, et on peut être surpris, comme un feu dévorant. Oh là là. Incroyable. Et l'image est reprise dans le Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible, dans la lettre aux Hébreux. Au chapitre 12, il nous est dit « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » Incroyable. Est-ce que nous avons cette image de Dieu ? Le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob est aussi le Dieu de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que Jésus est venu entre-temps et nous a permis d'accéder au Père. Il nous a pardonné, il nous a gracié, il nous a réconcilié par son sacrifice avec son Père. Et désormais, cette relation est possible avec Dieu. Par sa mort, il nous a offert le pardon de nos péchés. Et tout ce qui nous accusait, tout ce qui nous condamnait, a été écarté, a été effacé. Et Jésus a ouvert pour nous la route vers Dieu et la route vers le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu est en rapport avec Dieu, avec qui il est, sa personne et sa personnalité. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que nous ayons peur de lui. Et nous n'avons aucune raison d'avoir peur de lui. Depuis le début de l'humanité, Dieu a toujours voulu cultiver une relation de confiance, une relation d'amour et une relation de respect mutuel. Le réformateur Martin Luther, avant sa conversion, était pétrifié. Il avait une image de Dieu visiblement déformée. Il avait peur de Dieu. Il voyait Dieu comme un juge en colère. Et ça peut être encore le cas, peut-être pour l'un ou pour l'autre. Jusqu'au moment où il rencontre vraiment le Seigneur, dans un contact particulier, un moment fort de sa vie, il se convertit à Jésus-Christ et il réalise que ce ne sont pas nos œuvres, nos mérites qui peuvent nous faire gagner le ciel, mais une relation personnelle de foi grâce à Jésus-Christ. La foi et la grâce de Dieu seuls peuvent sauver. Et alors, il change son point de vue, il a une autre image de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas adopter une posture religieuse. Marcher à petits pas, parler à mi-voix. Quand j'étais gamin, un de mes copains m'a entraîné dans une église, je ne connaissais rien de Dieu. Et puis, on est entré dans cette église, faisait un peu sombre, et dans le fond, il me dit, tu vois là-bas, il y a une petite lumière, c'est Dieu. Parler à mi-voix. J'avais l'impression qu'on allait le réveiller d'un moment à l'autre, surtout pas faire de bruit pour ne pas le déranger. Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas adopter une posture religieuse. La crainte de Dieu, c'est quoi ? Bien, c'est l'expression d'un profond respect pour Dieu. C'est reconnaître Dieu comme le Créateur, comme le souverain, être conscient de sa grandeur, de sa supériorité, de sa souveraineté. Les Juifs adoptent une attitude qui est très particulière. Ils ont ce qu'on appelle une kippa, qu'ils mettent sur la tête, voyez. Et ça signifie que Dieu est au ciel, il y a quelqu'un au-dessus de moi, et moi, je suis en dessous. Le Créateur est au-dessus de moi. Moi, je suis sa créature. Il est le maître. Moi, je suis le serviteur. Vous voyez ? La crainte de Dieu, c'est cela. C'est cultiver dans son cœur ce profond respect pour Dieu et lui accorder la place qu'il mérite, la position qu'il mérite. Être conscient que je vis sous son regard. Et qu'à tout moment, J'ai besoin d'être conscient que ce que je fais, ce que je vis, ce que je dis, Dieu l'entend, Dieu le voit. Je vis sous son regard. C'est avoir de la considération pour Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Il n'est pas notre pote. Il veut être notre ami. C'est pas la même chose. Il a été l'ami d'Abraham. Il a été l'ami pour Moïse. Il était un ami pour d'autres hommes et des femmes dans la Bible, des chrétiens et des croyants authentiques. Il veut être notre ami, cultiver avec nous une relation personnelle, une relation d'amitié, mais une relation respectueuse. Mais il n'est pas notre copain. Il est le Créateur, nous sommes sa créature. Il est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Il est le patron, nous sommes les ouvriers. Il est le Maître, nous sommes ses disciples. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc on ne peut pas confondre les rôles. Il est au-dessus. Il est au ciel et moi, je suis sur la terre. Alors on ne joue pas avec Dieu et on ne se moque pas de lui. Je pense que ça a des implications dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de prière, dans notre louange. Lorsqu'on reconnaît à Dieu sa véritable place, on adapte aussi sa conduite en conséquence et on le loue, on le prie, on témoigne, on rayonne de sa foi avec un autre regard. Il y a eu des hommes et des femmes dans la Bible qui ont eu la crainte de Dieu, une crainte même qui est accordée à des gens qui ne sont pas plus croyants que ça. Je pense aux marins qui étaient sur le bateau quand Jonas a pris la fuite. Alors il parle aux marins, il dit « Oui, la tempête arrive, c'est à cause de moi, parce que je crains Dieu. » Alors les marins ne sont pas dupes, ils disent « Comment ça tu crains Dieu et tu désobéis, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et on va le voir tout à l'heure, craindre Dieu c'est aussi se soumettre, c'est lui obéir. Par contre, les marins avaient la crainte de Dieu, parce qu'avant de le jeter à la mer, ils prient et disent « Seigneur, aie pitié de nous, ne nous impute pas ce péché, aie pitié de nous !» Puis il le balance à la mer, et la mer se calme. Et à ce moment-là, les marins offrent un sacrifice au Dieu. Et il nous est dit qu'ils ont été saisis par la crainte de Dieu. Exode chapitre 1, verset 17, nous montre des sages-femmes. Le roi d'Égypte avait donné cet ordre aux sages-femmes, « Quand vous verrez les femmes des Hébreux accoucher, si c'est une fille, vous la laisserez vivre. » Mais si c'est un garçon, vous le tuez. Et il nous est dit, Exode 1, que les femmes, les sages-femmes, ont eu la crainte de Dieu et qu'elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Quelquefois, le fait d'avoir la crainte de Dieu sur nous nous met en porte-à-faux avec les hommes. Je pense à la secrétaire qui est obligée de dire au client « Mon patron n'est pas là » alors qu'il est là dans la pièce à côté. Et je pense à certaines chrétiennes qui ont bravé l'ordre du patron en disant « Mon patron m'a dit de vous dire qu'il n'était pas là ». Vous voyez ? Il y a des implications dans notre vie au quotidien. Donc, craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu. C'est aussi détester le mal. Détester ce que Dieu déteste. Proverbe 8, verset 13, « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. » Craindre Dieu, c'est avoir à l'égard du mal exactement la même attitude que Dieu vis-à-vis du mal. C'est ne pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. Et Dieu ne tolère pas le péché. Aucune tolérance. Il ne supporte pas l'hypocrisie, ne supporte pas le mensonge, ne supporte pas le vol. Et Romains 12 nous dira « Ayez le mal en horreur ». Une autre version dit « Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous fortement au bien. » Et Proverbe 16, Proverbe a beaucoup de choses à nous dire sur la crainte de Dieu, manifestement. « Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas adopter une posture religieuse, mais c'est vivre en accord avec ce que la parole nous enseigne, parce que Dieu est un Dieu saint. La sainteté convient à sa maison. Et Pierre dira, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le fait d'être saint, c'est de réaliser qu'on a été mis à part pour Dieu. On est à part. On ne pense pas comme la plupart des gens, comme la majorité. On ne réfléchit pas comme le monde réfléchit. On ne vit pas comme le monde vit, mais on vit en fonction du regard de Dieu sur notre vie. On vit pour plaire à Dieu. Cette semaine, notre frère Thierry Tsanga nous a parlé du fait de plaire à Dieu. Il nous disait, si je sais ce qui plaît à mon épouse Marie et que je fais le contraire, je suis mal. Je suis mal. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Si je sais ce qui fait plaisir à Dieu et que je fasse le contraire, eh bien je suis mal. Je suis mal. Notamment, pendant ces 3 jours de jeûne, quelqu'un est venu me trouver en disant « Voilà, ça fait quelques années que j'ai quelque chose sur mon cœur que j'ai caché. » Et avec l'effet du jeûne, avec la prière, avec la présence de Dieu, ces choses remontent et je ne peux pas les garder plus longtemps. Il faut que je le dise. Et la Bible dira « Celui qui avoue ses transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et puis la crainte de Dieu, c'est l'honorer aussi par notre soumission et par notre obéissance. Deutéronome 10, verset 12. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu ? Afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. » Et tout converge vers cela. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur, c'est notre joie, c'est notre paix, c'est la sérénité, c'est qu'on soit en bonne santé à tout point de vue. Et qu'on prospère à tout point de vue, c'est ce qu'il souhaite pour chacun de nous, afin d'être heureux. Alors, c'est vrai que l'obéissance, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et puisque c'est Dieu qui est au-dessus de moi, je lui dois le respect en me soumettant, en lui obéissant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce que nous prions régulièrement, et nous avons un modèle dans la personne de Jésus, qui dans le moment le plus difficile et le plus douloureux de sa vie, avant de livrer sa vie sur la croix, se trouve dans le jardin de Gethsémané. Et là encore une fois, lui qui était Dieu, parfaitement homme, dit à son Père, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais toutefois que ta volonté se fasse. » Et puis nous avons l'annonce de la venue de Jésus, qui est couvert par le Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, et qui exercera tout au long de sa vie un ministère sous la puissance du Saint-Esprit. Et dans Ésaïe 11, on a une description du Saint-Esprit. Et là, on est étonné par les diverses facettes que peut avoir le Saint-Esprit. Par exemple, donc Ésaïe 11, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Autrement dit, si je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu me communique aussi par son esprit la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui m'est donné aussi et qui est cultivé par une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de crainte de l'Éternel. Donc le respect, la considération pour Dieu, la haine du mal sous toutes ses formes, la soumission et l'obéissance. La crainte de Dieu est étroitement lié à l'idée que je me fais de Dieu, à la vision que je peux avoir de lui. Elle est étroitement liée aussi à mon rapport à lui, au niveau de ma communion avec le Seigneur. Ma crainte de Dieu est proportionnelle à l'amour que j'ai pour lui. C'est Jésus qui dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne s'agit pas seulement de dire, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il s'agit de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la crainte de Dieu écarte de nos vies toute autre crainte. On peut être parfois piégé par la crainte des hommes et essayer de louvoyer, mais la crainte de Dieu dans nos vies nous positionne parce qu'elle met sur nous l'approbation de Dieu et la certitude que nous sommes dans sa pensée, dans sa volonté. La crainte de Dieu écarte toutes les autres craintes. Elle nous influence dans notre manière de vivre, dans notre témoignage. En venant ici, j'étais sur l'autoroute, et en ce moment, l'autoroute est limitée à 70. Alors, quand vous êtes à 70 sur l'autoroute, puis vous voyez les autres filer, oh, quand même, les camions et tout le monde vous dépassent, ben, je pense, frères et sœurs, que la crainte de Dieu, c'est de respecter les autorités, les lois, la limitation et tout ce que Dieu a mis en place. Et l'apôtre Paul de nous dire, ces autorités, bien Dieu les a mis en place et nous avons à les respecter. Pour autant que ces autorités, ces lois, ne soient pas en contradiction avec ce que Dieu dit. C'est l'apôtre Pierre qui dira, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. À cette époque-là, on avait essayé de les faire taire dans leur témoignage, et l'apôtre Pierre dira, non, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et l'évangile a été proclamé. Alors, comment est-ce qu'on peut développer la crainte de Dieu dans notre propre vie? Je pense que c'est important que nous décidions de vivre dans la crainte de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, tout ce qui est appelé à se développer, est d'abord l'objet d'une décision. C'est d'abord un choix. Si j'aime le Seigneur, je veux vivre pour lui et je veux être sérieux. Décider de vivre dans la crainte de Dieu. Proverbe chapitre 1er verset 29 nous parle de gens qui n'ont pas voulu de Dieu. Ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de Dieu. C'est donc d'abord un choix. Et tout à l'heure, je voudrais que nous puissions prier dans ce sens, que nous puissions grandir dans cette dimension de la crainte de Dieu. Deuxièmement, comment développer la crainte de Dieu? Bien, en reconnaissant que nous sommes encore loin, en reconnaissant notre manque de crainte de Dieu, et que nous avons besoin de prier pour que le Seigneur augmente cette crainte dans notre vie, que notre relation avec lui grandisse, mûrisse, et que nous soyons toujours davantage remplis du Saint-Esprit, qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ensuite, dans notre temps quotidien, je ne sais pas comment ça va en ce moment, est-ce que vous êtes sur votre chaise, votre fauteuil, votre canapé, vous prenez au moins 15 minutes au quotidien, je ne sais pas comment ça va avec votre chaise, vous lisez votre Bible, vous avez votre carnet de notes à côté de vous, vous lisez tous ces textes. Peut-être est-ce l'occasion d'investir dans une concordance, et même si vous avez votre smartphone, vous pouvez taper « concordance biblique » et vous prenez toutes les références indiquées « crainte de l'Éternel ». Vous allez voir, il y a un paquet de références. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, craindre l'Éternel. Et vous allez voir, et je peux vous assurer que tous ces textes vont venir vous chercher. Comme dirait mon Pierre, ils viennent vous chercher. C'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Et le fait de lire la parole, le fait de la méditer, le fait de l'étudier, vous étudiez un petit peu ces textes, ça vous rapproche de Dieu. Ça vous fait davantage aimer le Seigneur. Et ça vous donne envie de vivre dans sa crainte, dans le respect profond pour lui. Prenez le temps d'étudier, prenez le temps de lire ces textes. et de vous en nourrir. Proverbe 2, verset 1, « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu le cherches comme l'argent, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » La crainte de Dieu est liée à la notion de connaissance de Dieu. Et je termine avec quelques bienfaits, quelques bénéfices, quelques bénédictions qui sont liées. Il y en a plein, je ne vous lirai pas tous les passages. Et par exemple, ceux que nous connaissons qui sont de l'ordre de la protection et de la délivrance. Psaume 34, verset 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Il y a une amitié particulière entre Dieu et celui qui craint Dieu. Psaume 25, verset 14. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » On peut traduire aussi « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. » On entre dans l'intimité de Dieu en le craignant, lorsqu'on est soumis, lorsqu'on lui obéit. Alors cette soumission, cette obéissance, elle peut avoir plusieurs formes, mais très souvent elle passe aussi par les responsables que Dieu a mis en place. Et nous sommes testés dans notre soumission et dans notre obéissance. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. La compassion de Dieu, vous connaissez ce texte certainement, psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » La bonté de Dieu, psaume 103, verset 11, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et puis, ce passage très célèbre du dernier chapitre des Proverbes qui nous parle de la femme vertueuse ou de la femme valeureuse, il nous est dit là, « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Les gars, si vous cherchez une femme, ne cherchez pas la beauté en priorité, ni le charme, mais cherchez une femme qui craint l'Éternel. Moi, ce qui m'a frappé, alors de vous à moi, ce qui m'a frappé quand j'étais jeune, j'étais en mission, avant de fréquenter Evelyne, elle m'a frappé, savez-vous par quoi ? Par sa crainte de Dieu. C'est ça qui m'a touché en priorité. Alors évidemment, je suis parti en mission en disant « Seigneur », et souvent dans les écoles bibliques et les écoles missionnaires, les facs, on peut trouver, et c'est normal, si on cherche un compagnon, si on cherche un conjoint, il vaut mieux aller dans un endroit où l'on cultive la parole de Dieu, on cherche à servir Dieu de manière sincère et authentique. Donc ça faisait partie de ma prière. Ça, c'est pour les gars, c'est juste entre nous, j'en dis comment il faut. Et puis, alors évidemment, quand on est à l'école biblique, il y a des gars, il y a des filles, on se voit, on se fréquente, on se regarde, et puis quelque part dans le fond de notre pensée, on se dit toujours, c'est peut-être elle, c'est peut-être... Voilà. Mais quand on est attentif, il y a des choses qui nous marquent et qui nous frappent. Et là, il y avait un écho dans mon cœur. À chaque fois qu'Evelyne ouvrait la bouche pour prier, il y avait une dimension de la crainte de Dieu. Et c'est ça qui m'a d'abord frappé. Et je me suis dit, waouh, voilà une femme de Dieu. Après, ce qui m'a frappé, c'est son esprit de service. Ce n'est pas seulement de la parole, mais son esprit de service. Pendant des mois, elle a fait la cuisine, matin, midi et soir, pour toute une équipe, lorsque nous étions en mission et nous étions sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, on est dans la réalité. Mais c'est d'abord la crainte de Dieu qui m'a frappé. Et donc, si je suis en recherche pour quelqu'un, je crois que c'est ça qu'il faut chercher. Bien sûr, ce qu'on voit en premier, c'est la beauté, peut-être. Pas peut-être, c'est certain. Mais essayons de creuser plus loin. Tout ça, ça dépend de ce qu'on veut construire dans notre vie. Et moi, je voulais construire un couple solide, je voulais construire une famille pour honorer Dieu. Une famille dans laquelle on craint Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous connaissez peut-être aussi ce passage qui nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est le commencement. Et il vaut mieux toujours commencer par le commencement. Alors ce matin, la question du jour, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai commencé? Est-ce que j'ai commencé à vivre dans cette dimension de la crainte de Dieu? La question, ce n'est pas tant de savoir qu'est-ce que je vais faire pour Dieu, comment je vais m'y prendre, est-ce que j'ai du succès, quelle responsabilité, ça vient après. La question du jour, c'est quelle est ma situation dans ma relation personnelle avec Dieu? Parce que c'est construire que de faire attention à ma relation avec Dieu, que de construire au niveau de mon caractère, et la crainte de Dieu participe à la construction du caractère chrétien, mon témoignage chrétien, au reflet que j'ai dans ma vie chrétienne. Avons-nous commencé à vivre dans la crainte de Dieu? Certains, oui, certainement. Mais nous sommes là pour aller plus loin, nous sommes là pour progresser, nous sommes là pour avancer. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter à prier maintenant. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant. Et nous avons conscience ce matin que nous ne pouvons pas jouer avec toi, mais nous voulons être sérieux. Nous sommes venus pour progresser dans notre vie chrétienne. Nous sommes venus pour avancer avec toi. Pardonne, Seigneur, notre manque de crainte de Dieu. Pardonne ce qui n'est pas à ta gloire. Pardonne, Seigneur, là où nous avons vécu avec légèreté ou parlé avec légèreté, sans tenir compte du fait que tu es là et nous vivons sous ton regard. Pardon, Seigneur. Nous chantons parfois certains chants de manière tellement mécanique, sans réfléchir aux paroles. Pardon, Seigneur. Pardon. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Aide-nous, Seigneur, dans les jours et les semaines et les mois à venir, à nourrir, à développer la crainte de Dieu dans nos cœurs. Aide-nous à lire ta parole, à prendre du temps avec toi. Aide-nous à développer notre relation personnelle avec toi. Merci Seigneur pour toutes les facettes que tu as. Merci Seigneur. Nous aimons ton amour, nous aimons ta bonté, nous aimons quand tu nous parles de grâce, nous aimons quand tu nous réconfortes. Mais tu es aussi le Dieu redoutable. Tu es un feu dévorant. Oh, qu'on contacte avec toi et au travers de ce feu, le mal, le péché, l'hypocrisie, l'orgueil, tout cela soit brûlé dans nos vies et que nous soyons un peuple saint pour toi. Merci de nous permettre et de nous aider à grandir en qualité de vie avec toi, en sainteté. Oh, la sainteté convient à ta maison. Oh, merci Seigneur, parce que tu es aussi le Dieu saint et que tu veux nous rendre de plus en plus saints. Merci de faire le ménage en nous et de faire en sorte que nous soyons propres devant toi. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Amen.